Aristote, Métaphysique, livre 7, chapitre 6 à 10. Chapitre 6. La forme substantielle est-elle la même chose que chaque être ou en diffère-t-elle? C'est ce qu'il nous faut examiner. Cela nous sera utile pour notre recherche relativement à la substance. Chaque être ne diffère point, se semble, de sa propre essence, et la forme est l'essence même de chaque être. Dans les êtres accidentels, la forme substantielle paraît différer de l'être même. L'homme blanc diffère de la forme substantielle d'homme blanc. S'il y avait identité, il y aurait identité aussi entre la forme substantielle d'homme et la forme substantielle d'homme blanc. Car homme et homme blanc, c'est pour nous la même chose. D'où il suivrait qu'il n'y a pas de différence entre la forme substantielle d'homme blanc et la forme substantielle d'homme. Admettrons-nous donc que pour tous les êtres accidentels, l'être et la forme ne sont pas nécessairement la même chose. Sans nul doute. Les termes comparés, en effet, ne sont pas identiques. Peut-être, dira-t-on, qu'il peut se faire accidentellement qu'ils soient identiques. Par exemple, s'il s'agit de la forme substantielle de blanc, de la forme substantielle de musicien. Mais il n'en est pas ainsi, ce semble. Quant aux êtres en soi, y a-t-il nécessairement identité entre l'être et la forme substantielle? Dans le cas, par exemple, des substances premières, s'il en existe, substances sur lesquelles aucune autre substance, aucune autre nature n'aurait l'antériorité, comme sont les idées selon quelques philosophes. Si l'on admet l'existence des idées, alors le bien en soi diffère de la forme substantielle du bien, l'animal en soi de la forme de l'animal, l'être en soi de la forme substantielle de l'être. Alors, il doit y avoir des substances, des matières, des idées, en dehors des formes en question. Et ces substances leur sont antérieures, puisque la forme est rapportée à la substance. Que si l'on sépare ainsi l'être de la forme, il n'y aura plus de science possible de l'être, et les formes, de leur côté, ne seront plus des êtres. Et par séparation, j'entends que dans l'être bon ne se trouve plus la forme substantielle du bien, ou que, dans la forme substantielle, il n'y ait pas l'être bon. Il n'y a pas science, dis-je, car la science de chaque être, c'est la connaissance de la forme substantielle de cet être. Ceci s'applique au bien et à tous les autres êtres, de sorte que, si le bon ne se trouve point uni à la forme substantielle du bien, l'être ne sera point uni non plus à la forme substantielle de l'être, l'unité à la forme substantielle de l'unité. Mais de plus, ou bien la forme substantielle est identique à l'être pour toutes les idées, ou elle ne lui est identique pour aucune. De sorte que, si la forme substantielle d'être n'est pas l'être, il en sera de même pour tout le reste. Joignons à cela que ce qui n'a point la forme substantielle du bien n'est pas bon. Il faut donc nécessairement que le bien et la forme substantielle du bien soient une seule et même chose, qu'il y ait identité entre le beau et la forme substantielle du beau, et qu'il en soit de même pour tous les êtres qui ne sont point attributs d'une autre chose, mais qui sont premiers et en soi. Et cette conclusion est légitime, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des idées, mais plus peut-être s'il y a des idées. Il est évident encore que si les idées sont telles que le prétendent certains philosophes, le sujet de l'être particulier n'est pas une substance. En effet, les idées sont nécessairement substances et non point attributs, sans quoi elles participeraient de leur sujet. Il résulte de ce qui précède que chaque être ne fait qu'un avec sa forme substantielle, qui lui est essentiellement identique. Il en résulte également que connaître ce qu'est un être, c'est connaître sa forme substantielle. Ainsi, il sort de la démonstration que ces deux choses ne sont réellement qu'une seule chose. Quant à l'être accidentel, par exemple le musicien, le blanc, il n'est pas vrai de dire que l'être est identique à sa forme substantielle. L'être, dans ce cas, signifie deux choses. Il y a le sujet de l'accident et l'accident lui-même. De sorte que, sous un point de vue, il y a identité entre l'être et la forme, sous l'autre, non. Il n'y a point d'identité entre la forme substantielle d'homme et la forme substantielle d'homme blanc. Mais il y a identité dans le sujet qui éprouve la modification. On verra facilement l'absurdité de la séparation de l'être et de la forme substantielle si l'on donne un nom à toute forme substantielle. En dehors de ce nom, il y aura, dans le cas de la séparation, une autre forme substantielle. Ainsi, il y aura une autre forme substantielle de cheval en dehors de la forme substantielle du cheval. Et pourtant, qui empêche donc de dire tout d'abord que quelques êtres ont immédiatement en eux leur forme substantielle, puisque la forme substantielle, c'est l'essence. Non seulement il y a identité entre ces deux choses, mais leur notion est la même, comme il résulte de ce qui précède. Car ce n'est point accidentellement que l'unité et la forme substantielle de l'unité sont une même chose. Si ce sont deux choses différentes, on ira à l'infini. On aura d'un côté la forme substantielle de l'unité et de l'autre l'unité. Et ces deux termes seront à leur tour chacun dans le même cas. Il est donc évident que pour les êtres premiers, les êtres en soi, chaque être et la forme substantielle de chaque être sont une seule et même chose. Quant à toutes les objections sophistiques qu'on pourrait élever contre cette proposition, on y a évidemment répondu quand on a résolu cette question. Y a-t-il identité entre Socrate et la forme substantielle de Socrate? Les objections renferment en elles-mêmes tous les éléments de la solution. Ainsi, à quelles conditions y a-t-il identité entre chaque être et sa forme substantielle? À quelles conditions cette identité n'existe-t-elle pas? C'est ce que nous venons de déterminer. Chapitre 7. Entre les choses qui deviennent, les unes sont des productions de la nature, les autres de l'art, les autres du hasard. Dans toute production, il y a une cause, un sujet, puis un être produit. Et par être, j'entends ici toutes les modes de l'être, essence, quantité, qualité, lieu. Les productions naturelles sont celles des êtres qui proviennent de la nature. ce dont un être provient, c'est ce qu'on appelle la matière. Ce par quoi une chose est produite est un être naturel. L'être produit, c'est ou un homme, ou une plante, ou quelqu'un des êtres de ce genre, auquel nous donnons surtout le nom de substance. Tous les êtres qui proviennent de la nature ou de l'art ont une matière, car tous, ils peuvent être ou ne pas être. Et cette possibilité tient à la matière qui est dans chacun d'eux. En général, et la cause productrice des êtres, et les êtres produits s'appellent nature. Car les êtres qui sont produits, la plante, l'animal par exemple, ont une nature. Et la cause productrice a, sous le rapport de la forme, une nature semblable à celle des produits. Seulement cette nature se trouve dans un autre être. C'est un homme qui produit un homme. C'est ainsi qu'arrivent à l'existence les productions de la nature. Les autres productions s'appellent créations. Toutes les créations sont des effets ou d'un art ou d'une puissance ou de la pensée. Quelques-unes aussi proviennent du hasard, de la fortune. Ce sont, pour ainsi dire, des productions collatérales. Il y a, par exemple, dans la nature, des êtres qui se produisent également et au moyen d'une semence et sans semence. Nous nous occuperons plus bas des productions du hasard. Les productions de l'art sont celles dont la forme est dans l'esprit. Et par forme, j'entends l'essence de chaque chose, sa substance première. Les contraires ont, sous un point de vue, la même forme substantielle. La substance de la privation, c'est la substance opposée à la privation. La santé est la substance de la maladie. En effet, la déclaration de la maladie n'est que l'absence de la santé. Et la santé, c'est l'idée même qui est dans l'âme, la notion scientifique. La santé vient d'une pensée comme celle-ci. La santé est telle chose, donc il faut, si l'on veut la produire, qu'il y ait telle autre chose, par exemple l'équilibre des différentes parties. Or, pour produire cet équilibre, il faut la chaleur. Et l'on arrive ainsi, successivement, par la pensée, à une dernière chose qu'on peut immédiatement produire. Le mouvement qui réalise cette chose se nomme opération. Opération en vue de la santé. De sorte que, sous un point de vue, la santé vient de la santé, la maison de la maison matérielle de la maison immatérielle. Car la médecine, l'art de bâtir, sont la forme de la santé et de la maison. Par essence immatérielle, j'entends la forme pure. Parmi les productions et les mouvements, les uns sont appelés pensées, les autres opérations. Ceux qui proviennent de la cause productrice et de la forme sont les pensées. Ceux qui ont pour principe la dernière idée à laquelle arrive l'esprit, sont des opérations. La même chose s'applique à chacun des états intermédiaires entre la pensée et la production. Ainsi, pour qu'il y ait santé, il faut qu'il y ait équilibre. Mais qu'est-ce que l'équilibre ? C'est telle chose. Et cette chose aura lieu s'il y a chaleur. Qu'est-ce que la chaleur ? Telle chose. La chaleur existe en puissance et le médecin peut la réaliser. Ainsi, le principe producteur, la cause motrice de la santé, si elle est le fruit de l'art, c'est l'idée qui est dans l'esprit. Si le fruit du hasard, elle aura certainement pour principe la chose même au moyen de laquelle l'eût produite celui qui l'a produit par art. Le principe de la guérison, c'est probablement la chaleur. Et on produit la chaleur par la friction. Or, la chaleur produite dans le corps est un élément de la santé. Ou bien, elle est suivie d'une autre chose ou de plusieurs qui sont les éléments de la santé. La dernière chose à laquelle on arrive ainsi est la cause efficiente. Elle est un élément de la santé de la maison. Telles sont les pierres. Et de même pour tout le reste. Il est donc impossible, comme nous l'avons dit, que rien se produise si rien ne préexiste. Il est évident qu'il faut de toute nécessité un élément préexistant. La matière est un élément. Elle est le sujet et c'est sur elle qu'a lieu la production. Dans les êtres mêmes dont il y a définition, la matière se trouve encore. En effet, dans la définition des cercles réalisés, en général, il entre deux éléments, la matière, les reins par exemple, et ensuite la forme, telle figure, c'est-à-dire le genre premier auquel l'objet se rapporte. Dans la définition du cercle des reins, entre la matière. L'objet produit ne prend jamais le nom du sujet d'où il vient. On dit seulement qu'il est de la nature de ce sujet, qu'il est de cela, et non pas cela. On ne dit point une statue pierre, mais une statue de pierre. L'homme en santé ne prend pas le nom de ce dont il est parti pour arriver à la santé. La cause, c'est que la santé vient à la fois et de la privation de la maladie et du sujet lui-même, auquel nous donnons le nom de matière. Ainsi, l'être bien portant provient et de l'homme et du malade. Cependant, la production est plutôt rapportée à la privation. On dit qu'on devient de malade bien portant, plutôt que d'homme bien portant. C'est pourquoi l'être bien portant ne reçoit pas la qualification de malade, mais d'homme, et d'homme bien portant. Dans les circonstances où la privation n'est point apparente, ou bien quand cette privation n'a pas de nom. Par exemple, lorsque telle forme est produite sur les reins, lorsque les briques, les poutres d'une maison, reçoivent telle forme. La même chose a lieu, se semble, dans cette production que pour la production de la santé, laquelle vient de la maladie. Et de même que dans ce dernier cas, l'objet produit ne reçoit pas le nom de l'objet dont il provient, de même, la statue ne s'appelle pas bois, mais tire son nom du bois dont elle est faite. Elle est de bois et non pas bois. Elle est d'airain et non pas Airain, de pierre et non pas pierre. On dit encore une maison de briques et non pas une maison brique. Et en effet, si l'on veut y faire attention, on verra que ce n'est point absolument que la statue vient du bois, la maison des briques. Lorsqu'une chose provient d'une autre, il y a transformation de l'une dans l'autre. Le sujet ne persiste point dans son état. Telle est la raison de cette locution. Chapitre 8. Tout être qui devient a une cause productrice. Et par là, j'entends le principe de la production. Il a aussi un sujet. C'est le sujet, non point la privation, mais la matière, au sens où nous avons pris ce mot précédemment. Enfin, il devient quelque chose, sphère, par exemple, cercle ou tout autre objet. De même donc que le sujet ne produit pas l'airain, de même aussi, il ne produit point la sphère, si ce n'est accidentellement. parce que la sphère des reins est accidentellement une sphère des reins. Ce qui produit, c'est la sphère des reins. Car produire un être particulier, c'est, du sujet absolument indéterminé, faire un objet déterminé. Je dis par exemple que rendre rond les reins, ce n'est produire ni la rondeur ni la sphère, mais c'est produire un tout autre objet. C'est produire cette forme dans autre chose. Si l'on produisait réellement la sphère, on la tirerait d'autre chose. Alors il faudrait un sujet, comme dans la production de la sphère des reins. Produire une sphère des reins ne veut pas dire autre chose que faire de tel objet qui est de l'airain, telle autre chose qui est une sphère. Si donc il y a production de la sphère elle-même, la production sera de même nature. Ce ne sera qu'une transformation. Et la chaîne des productions se prolongera ainsi à l'infini. Il est donc évident que la figure, ou quel que soit le nom qu'il faut donner à la forme réalisée dans les objets sensibles, ne peut point devenir, qu'il n'y a pas pour elle de production, que néanmoins, la figure n'est pas une essence. La figure, en effet, c'est ce qui se réalise dans un autre être, par le moyen de l'art ou de la nature ou d'une puissance. Ce qu'elle produit en se réalisant dans un objet, c'est par exemple une sphère des reins. La sphère des reins est le produit de l'airain et de la sphère. Telle forme a été produite dans tel objet et le produit est une sphère des reins. Si l'on veut qu'il y ait véritablement production de la sphère, l'essence proviendra de quelque chose, car il faudra toujours que l'objet produit soit divisible et qu'il y ait en lui une double nature, d'un côté la matière, de l'autre la forme. La sphère est une figure dont tous les points sont également éloignés du centre. Il y aurait donc, d'une part, le sujet sur lequel agit la cause efficiente, de l'autre, la forme qui se réalise dans ce sujet. Et enfin, l'ensemble de ces deux choses, de la même manière que pour la sphère des reins. Il résulte évidemment de ce qui précède que ce qu'on appelle la forme, l'essence, ne se produit point. La seule chose qui devienne, c'est la réunion de la forme et de la matière. Que dans tout être qui est devenu, il y a de la matière. D'un côté la matière, de l'autre la forme. Y a-t-il donc quelques sphères, en dehors des sphères sensibles, quelques maisons, indépendamment des maisons de briques? S'il en était ainsi, il n'y aurait jamais production de l'être particulier. Il ne se produirait que des qualités. Or, la qualité n'est point l'essence, la forme déterminée, mais ce qui donne à l'être tel ou tel caractère, de telle sorte qu'après la production, on dise « tel être a telle qualité ». L'être réalisé, au contraire, Socrate, Callias, pris individuellement, est dans le même cas que la sphère des reins particulière. L'homme et l'animal sont comme la sphère des reins en général. Il est donc évident que les idées considérées comme cause, et c'est le point de vue des partisans des idées, supposer qu'il y ait des êtres indépendants des objets particuliers, sont inutiles pour la production des essences, et que ce ne sont pas les idées qui constituent les essences des êtres. Il est encore évident que, dans certains cas, ce qui produit est de même nature que ce qui est produit, mais ne lui est point identique en nombre. Il y a seulement identité de forme, comme il arrive par exemple pour les productions naturelles. Ainsi, l'homme produit l'homme. Toutefois, il peut y avoir une production contre nature. Le cheval engendre le mulet. Et encore, la loi de la production est-elle ici la même ? La production a lieu en vertu d'un type commun au cheval et à l'âne, d'un genre qui se rapproche de l'un et de l'autre et qui n'a pas reçu de nom. Le mulet est probablement un genre intermédiaire. On voit assez qu'il n'est pas besoin qu'un exemplaire particulier fournisse la forme des êtres, car ce serait surtout dans la formation des êtres individuels que ces exemplaires seraient utiles, puisque ce sont ces êtres surtout qui ont le caractère des sens. L'être qui engendre suffit à la production. C'est lui qui donne la forme à la matière. Telle forme générale, qui se réalise dans tels os, dans telle chair, voilà Socrate et Callias. Il y a cependant entre eux différence de matière, car la matière diffère. Mais leur forme est identique. La forme est indivisible. Chapitre 9. On pourrait se demander pourquoi certaines choses sont produites, tout aussi bien par le hasard que par l'art. Ainsi, la santé. Tandis que pour d'autres, il n'en est pas de même. Par exemple, pour une maison. La cause, c'est que la matière, principe de la production des choses qui sont faites ou produites par l'art, la matière, qui est une partie même de ces choses, a dans certains cas un mouvement propre qu'elle n'a pas dans d'autres. Telle matière peut avoir tel mouvement particulier. Tel autre ne le peut pas. Une multitude d'êtres ont en eux un principe de mouvement qui ne peuvent se donner tel mouvement particulier. Par exemple, ils ne pourront pas danser en cadence. Toutes les choses donc qui ont une matière de ce genre, les pierres par exemple, ne peuvent point prendre tel mouvement particulier, à moins qu'elles ne reçoivent une impulsion extérieure. Elles ont cependant un mouvement qui leur est propre. Il en est de même du feu. C'est pourquoi certaines choses n'existeront point indépendamment de l'artiste. D'autres pourront exister au contraire. Ces dernières, en effet, pourront être mises en mouvement par des êtres étrangers à l'art, car elles peuvent recevoir le mouvement ou d'êtres qui ne possèdent point l'art ou d'elles-mêmes. Il résulte évidemment de ce que nous avons dit que toutes choses viennent en quelque façon de choses qui portent le même nom, comme les productions naturelles, ou bien d'un élément qui a le même nom. Ainsi, la maison vient de la maison, ou si l'on veut, de l'esprit. L'art, en effet, c'est la forme. La forme, considérée comme élément essentiel, ou comme produisant elle-même un élément de l'objet. Car la cause de la réalisation est un élément essentiel et premier. Ainsi, la chaleur que développe le frottement produit la chaleur dans le corps. Celle-ci est ou la santé ou un élément de la santé, ou bien elle est suivie de quelque chose qui est ou un élément de la santé elle-même. C'est pourquoi on dit que le frottement produit la santé, parce que la chaleur produit la santé, qu'elle en est suivie et accompagnée. Et de même que tous les raisonnements ont pour principe les sens. Tout raisonnement part, en effet, de l'être déterminé, né. De même, les sens est le principe de toute production. Il en est des productions de la nature comme des productions de l'art. Le germe remplit à peu près le même rôle que l'artiste, car il a en puissance la forme de l'objet, et ce dont vient le germe porte généralement le même nom que l'objet produit. Je dis généralement, car il ne faut point chercher en cela une rigueur exacte. L'homme vient de l'homme, il est vrai, mais la femme aussi vient de l'homme. Il faut d'ailleurs que l'animal ait l'usage de tous ses organes. Ainsi, le mulet ne produit pas le mulet. les productions du hasard dans la nature sont celles dont la matière peut prendre par elle-même le mouvement qu'imprime ordinairement le germe. Toutes les choses qui ne sont pas dans cette condition ne peuvent point être produites autrement que par une cause motrice du genre de celle dont nous avons parlé. Ce n'est point seulement pour la forme de la substance que toute production est démontrée impossible. Le même raisonnement s'applique à toutes les catégories, à la quantité, à la qualité et à tous les autres modes de l'être. Car de même qu'on produit une sphère d'airain et non pas la sphère ni l'airain, et la même chose s'applique à l'airain considéré comme production, puisque toujours dans les productions il y a une matière et une forme qui préexistent. De même aussi pour les sens, pour la qualité, la quantité, pour toutes les autres catégories. Ce qui se produit n'est pas la qualité, mais le bois ayant telle qualité. Ce n'est point non plus la quantité, mais le bois, l'animal, ayant telle quantité. De tout ce qui précède, il ressort que dans la production d'un être, il faut nécessairement que la substance productrice soit en acte et qu'il y ait, par exemple, un animal préexistant, si c'est un animal qui est produit. Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait une quantité, une qualité préexistant en acte. Il suffit qu'elle soit en puissance. Toute définition est une notion. Et toute notion a des parties. D'un autre côté, il y a le même rapport entre les parties de la notion et les parties de l'objet défini qu'entre la notion et l'objet. Nous pouvons nous demander maintenant si la notion des parties doit ou non se trouver dans la notion du tout. Elle s'y trouve à ce qu'il semble dans certains cas et dans d'autres non. Ainsi, la notion du cercle ne renferme pas la notion de ses parties. La notion de la syllabe, au contraire, renferme celle des éléments. Et cependant, le cercle peut se diviser en ses parties, comme la syllabe en ses éléments. Ensuite, si les parties sont antérieures au tout, l'angle aigu étant une partie de l'angle droit, le doigt une partie de l'animal, l'angle aigu sera antérieur au droit et le doigt antérieur à l'homme. Et cependant, l'homme, l'angle droit, semble antérieur. C'est par leur notion qu'on définit les autres choses, et ils sont encore antérieurs parce qu'ils peuvent exister sans elles. Mais le mot « partie » ne s'entend-il pas de différentes manières ? Une des acceptions de ce mot, c'est ce qui mesure relativement à la quantité. Laissons de côté ce point de vue. Il s'agit ici des parties constitutives de l'essence. S'il y a d'une part la matière, de l'autre la forme, et enfin l'ensemble de la matière et de la forme. Et si la matière, si la forme, si l'ensemble de ces deux choses sont, comme nous l'avons dit, des substances, il s'ensuit que la matière est sous un point de vue partie de l'être et sous un autre point de vue ne l'est pas. Les parties qui entrent dans la notion de la forme constituent seules dans ce dernier cas la notion de l'être. Ainsi, la chair n'est pas une partie du retroussé. Elle est la matière sur laquelle s'opère la production. Mais elle est une partie du Camus. L'airain est une partie de la statue réalisée, mais non pas une partie de la statue idéale. C'est la forme que l'on exprime, et chaque chose se désigne par sa forme. Jamais on ne doit désigner un objet par la matière. C'est pourquoi, dans la notion du cercle, n'entre point la notion de ses parties, tandis que dans la notion de la syllabe entre celle de ses éléments. c'est que les éléments du discours sont partie de la forme et non point matière. Les segments du cercle, au contraire, sont partie du cercle à titre de matière. C'est en eux que se réalise la forme. Cependant, ces segments ont plus de rapport avec la forme que les reins, dans le cas où la forme circulaire se réalise dans les reins. Les éléments de la syllabe eux-mêmes n'entreront pas toujours dans la notion de la syllabe. Les lettres formées sur la cire, les articulations qui frappent l'air, toutes ces choses sont des parties de la syllabe à titre de matière sensible. Parce que la ligne n'existe plus si on la divise en deux parties, parce que l'homme périt, que l'on divise en os, en air, en chair, il ne faut point dire néanmoins que ce sont là des parties de l'essence, ce sont des parties de la matière. Ce sont bien des parties de l'être réalisé, mais ce ne sont pas des parties de la forme. En un mot, de ce qui entre dans la définition. Les parties, sous ce point de vue, n'entrent donc point dans la notion. Dans certains cas, donc, la définition des parties entrera dans la définition du tout. Dans d'autres, elle n'y rentrera point, quand par exemple, il n'y aura pas définition de l'être réalisé. C'est pour cela que certaines choses ont pour principe les éléments dans lesquels elles se résolvent, les autres non. Tous les objets composés qui ont forme et matière, le Camus, le cercle des reins, se résolvent dans leur partie. Et la matière est une de ces parties. Mais tous les êtres dans la composition desquels n'entre pas la matière, tous les êtres immatériels, par exemple, la forme considérée en elle-même, ces êtres, ou ne peuvent absolument se résoudre dans leur partie, ou s'y résolvent d'une autre manière. Certains êtres ont donc en eux-mêmes leur principe constitutif, leur partie. Mais la forme n'a ni principe ni partie de ce genre. Et c'est pour cela que la statue d'argile se résout en argile, la sphère en airain, Callias en chair et en os. C'est pour cela aussi que le cercle se résout en divers segments. Car il y a cercle matériel. On applique également le nom de cercle et au cercle proprement dit et au cercle particulier, parce qu'il n'y a point de nom propre pour désigner les cercles particuliers. Telle est la vérité sur cette question. Cependant, revenons un peu sur nos pas pour l'éclairer mieux encore. Les parties de la définition, les éléments dans lesquels elle peut se décomposer, sont premiers ou tous premiers ou seulement quelques-uns. Mais la définition de l'angle droit ne peut pas se diviser en plusieurs parties, dont l'une serait la notion de l'angle aigu. La définition de l'angle aigu, au contraire, peut se diviser ainsi par rapport à l'angle droit, car on définit l'angle aigu en le rapportant à l'angle droit. Un angle aigu est un angle plus petit qu'un droit. Il en est de même du cercle et du demi-cercle. On définit le demi-cercle au moyen du cercle, le doigt au moyen du tout. Le doigt est une partie du corps ayant tel caractère. De sorte que toutes les choses qui sont parties d'un être en tant que matière, les éléments matériels dans lesquels il peut se diviser sont postérieurs. Au contraire, les choses qui sont des parties de la définition de la forme substantielle sont antérieures ou toutes antérieures, ou du moins quelques-unes. D'après cela, puisque l'âme des êtres animés est la forme substantielle, l'essence même du corps animé, car l'âme est l'essence des êtres animés. La fonction de chaque partie et la connaissance sensible qui en est la condition devront entrer dans la définition des parties de l'animal si l'on veut les bien définir. De sorte qu'il y a priorité des parties de l'âme, de toutes ou de quelques-unes, relativement à l'ensemble de l'animal. Il y a de même priorité relativement aux différentes parties du corps. Le corps et ses parties sont postérieurs à l'âme. Le corps peut se diviser en ses diverses parties considérées comme matière. Non point le corps essence, mais l'ensemble qui constitue le corps. Sous un point de vue, les parties du corps sont antérieures à l'ensemble. Sous un autre, elles sont postérieures. Elles ne peuvent point en effet exister indépendamment du corps. Un doigt n'est pas réellement un doigt dans tout état possible, mais seulement lorsqu'il y a la vie. Cependant, on donne le même nom au doigt mort. Il y a quelques parties qui ne survivent pas à l'ensemble, celles par exemple qui sont essentielles, le siège premier de la forme et de la substance. Ainsi le cœur et le cerveau, s'ils jouent réellement ce rôle. Peu importe du reste que ce soit l'un ou l'autre. L'homme, le cheval, tous les universaux résident dans les individus. La substance n'est pas quelque chose d'universel. C'est un ensemble, un composé de telle forme et de telle matière. La matière et la forme sont des universaux. Mais l'individu, Socrate ou tout autre, est un ensemble de la forme et de la matière. La forme elle-même, et par forme j'entends l'essence pure. La forme a aussi des parties, tout aussi bien que l'ensemble de la forme et de la matière. Mais les parties de la forme ne sont que des parties de la définition. Et la définition n'est que la notion générale. Car le cercle et l'essence du cercle, l'âme et l'essence de l'âme, sont une seule et même chose. Mais pour le composé, par exemple, pour tel cercle particulier, sensible ou intelligible, par intelligible j'entends le cercle mathématique et par sensible le cercle d'airain ou de bois, il n'y a pas de définition. Ce n'est pas par des définitions, mais au moyen de la pensée et des sens qu'on les connaît. Quand nous avons cessé de voir réellement les cercles particuliers, nous ne savons pas s'ils existent ou non. Mais cependant, nous conservons la notion générale du cercle, non point une notion de sa matière, car nous ne percevons pas la matière par elle-même. La matière est sensible ou intelligible. La matière sensible est par exemple l'airain, le bois et toute matière susceptible de mouvement. La matière intelligible est celle qui se trouve, il est vrai, dans les êtres sensibles, mais non pas en tant que sensible. Par exemple, dans les êtres mathématiques. Nous venons de déterminer tout ce qui concerne le tout, la partie, l'antériorité, la postériorité. Que si l'on demande si la ligne droite, le cercle, l'animal sont antérieurs aux parties dans lesquelles ils peuvent se partager et qui les constituent, il faut, pour répondre, établir une distinction. Si, en effet, l'âme est l'animal, ou chaque être animé, ou la vie de chaque être, si le cercle est identique à la forme substantielle du cercle, l'angle droit à la forme substantielle de l'angle droit, s'il est l'essence même de l'angle droit, qu'est-ce qui sera postérieur, qu'est-ce qui sera antérieur? Sera-ce l'angle droit en général, exprimé par la définition, ou tel angle particulier? Car l'angle droit matériel, formé d'airain par exemple, est tout aussi bien un angle droit que celui qui n'est formé que de lignes. L'angle immatériel sera postérieur aux parties qui entrent dans sa notion, mais il est antérieur aux parties de l'angle réalisé. Toutefois, on ne peut pas dire absolument qu'il est antérieur. Si l'âme, au contraire, n'est pas l'animal, si elle en diffère, il y aura antériorité pour les parties. Ainsi, dans certains cas, il faut dire qu'il y a, dans d'autres, qu'il n'y a pas antériorité.